Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur graphite94.net. Vous écoutez La Voix est libre, une émission hebdomadaire de l'association Picasoft, une association qui s'est donné trois missions: sensibiliser et former les citoyens et les citoyennes aux enjeux du numérique, héberger des services web respectueux de la vie privée et promouvoir une approche libre, éthique, inclusive et locale du numérique. Aujourd'hui, on va parler d'auto-hébergement et pour ce faire, je suis avec Baptiste et Tobias de Picasoft. Salut à vous.
Salut tout le monde.
Salut tout le monde.
Alors il faut savoir que cette émission, elle est essentiellement née d'un week-end de contribution à un logiciel libre dont on va reparler dans toute cette émission. Et donc pour introduire un petit peu le sujet, Baptiste, est-ce que tu veux bien nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on a bien été faire ce week-end ?
Oui, tout à fait. Alors ce week-end, on était en marge du festival Oasis, qui est le regroupement d'un certain nombre d'écoliers français qui se retrouvent donc tous les ans au cours de ce festival. Et l'inclusion des mouvements libristes dans ces mouvements n'est pas forcément toujours évidente et ne va pas forcément de soi. Et donc on était là-bas pour se demander un peu qu'est-ce qu'on peut faire dans tout cet archipel, quel peut être le rôle du logiciel libre. Et nous, dans ce cadre-là, on essayait de contribuer à un logiciel libre qui s'appelle UnoHost, qui est un logiciel d'auto-hébergement, et dans ce but-là, quoi.
Nickel. Donc comme on a dit, on va parler d'auto-hébergement, donc on va définir un peu plus tard ce que c'est. Et donc en fait, comme tu l'as dit, pendant ce week-end de contribution, on a rencontré pas mal de monde et en particulier, on était avec une dizaine de personnes pour contribuer à ce logiciel libre dont on reparlera. Et donc on va commencer par des petites présentations qu'ont fait les participants. Donc en premier, on avait Laurent.
Fils de paysan, né sur le bord de la Loire, équipier du mois, équipier de l'année, spatule d'or chez McDonald's, qui m'ont payé mes études. Et ça m'a permis de découvrir ce que j'appelle moi l'économie cynique et suicidaire, qui fait qu'après j'ai eu plutôt envie de faire des métiers qui avaient du sens. Ensuite j'ai fait de l'éducation à l'environnement, donc mon vrai métier c'est animateur nature. Et par des histoires de vie, j'en suis arrivé à travailler sur comment faire pour réimpulser de la coopération au sein des structures et entre les structures. Et du coup, en travaillant sur trois familles d'outils, ce qu'on appelle des outils politiques, notamment la notion de partage, de commun, etc. La deuxième chose, c'est des outils d'animation, donc comment, quelle technique pour que les humains soient intelligents entre eux. Et la troisième famille d'outils, c'est des outils numériques, donc comment mettre le numérique au service des collectifs.
Ensuite, on avait Florian.
Oui, salut, donc Florian, geek des colibris, c'est mon appellation officielle. Donc je suis dans un réseau de transition écologique et je m'occupe d'un chaton, donc un hébergement alternatif pour du coup proposer des services libres pour le milieu de la transition plutôt.
Salut, je fais de l'administration système au sein de Glomnet, un hébergeur associatif qui existe depuis quelques années. Peut-être que vous avez entendu parler de Nolog, voilà, c'est une association qui s'en occupe. Et puis, je m'intéresse depuis longtemps aux questions environnementales, autogestion, libertaire, voilà.
Donc ça, c'était Christophe. Ensuite, on était avec Engie.
Du coup, je suis co-directrice de Framasoft, une association de promotion des logiciels libres et d'éducation populaire au numérique éthique.
Alex.
Salut, je suis contributeur et mainteneur du projet UnoHost.
Et puis enfin, Mathieu.
Salut Mathieu, est-ce que tu as envie de te présenter en quelques mots ?
Ouais.
Voilà, merci Mathieu. Donc, comme on l'a pu le voir, on était quand même avec un petit paquet de beau monde.
Bah, du coup, ouais, comme vous pouvez le voir, comme l'a dit Quentin, nous avions vraiment des gens d'horizons très variés, ce qui fait qu'on peut avoir une diversité de réponses qui va être très intéressante. Et du coup, dans un premier temps, on va demander à Christophe et à Laurent qu'est-ce que c'est l'auto-hébergement, parce que c'est quand même le thème central de notre émission.
C'est l'idée de ne pas confier son hébergement à d'autres personnes. Donc il y a un peu ce côté, je dirais, extrême qui serait de dire que tout le monde peut mettre en place son ordinateur, le mettre en ligne et avoir ses données dessus, ses mails, ses photos et tout. Simplement, on sait bien que l'autogestion, ça prend du temps et de l'énergie. On n'a pas tous les compétences pour faire n'importe quoi. Et que je dirais qu'on pourrait aussi parler d'auto-hébergement si on confie ces données à des gens qui sont proches de nous, des copains ou des collectifs en qui on a confiance et avec qui on peut quand même discuter, contrôler ce qui se passe et apprendre.
Voilà, donc on a vu que s'auto-héberger au sens large, c'est confier ses données et puis utiliser des services web qui sont hébergés par des gens qu'on connaît et puis auprès de qui on peut se former. Donc c'est une manière de reprendre le contrôle directement ou indirectement de ses usages numériques. Mais on peut voir aussi l'auto-hébergement comme une manière d'améliorer la résilience des outils numériques et de relocaliser nos données.
Alors, Il y a, pour moi, il y a plusieurs niveaux. Il y a un des niveaux, c'est de redonner l'envie aux gens de voir ce qu'il y a derrière tout ça. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on a mis de la distance entre des interfaces super bien foutues, Firefox, etc., qui permettent d'accéder à des contenus. On a l'impression que ces contenus sont super loin et qu'on ne peut plus les maîtriser. Et toute la tendance à la gafamisation et autres gros machins donne l'impression que de toute façon, on est broyé par ces systèmes-là et qu'on n'a plus d'espace pour pouvoir agir. Donc là, le fait de remettre des objets tangibles sur la table et qui font que quand les gens se connectent, ils voient à quoi ils se connectent. Ça redonne de la curiosité sur comment ça fonctionne. Et maintenant, il y a notamment ce qu'on appelle les développeurs sociaux qui fabriquent des outils qui permettent aux gens de pouvoir mettre les mains dans des choses qui, à l'origine, étaient très, très compliquées. Il y a une vertu pédagogique et politique qui est super importante. Et puis après, l'autre élément, c'est quand j'étais petit, on parlait de neutralité du net et tous ces trucs-là. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même deux, trois endroits où ça a tendance, les tuyaux ont tendance à être privatisés, à être contrôlés. Donc, il y a peut-être un côté de quasiment de préparer une résistance. Peut-être qu'on n'en aura pas besoin, mais à un moment que je puisse avoir mes hébergeurs de contenu et qui fait qu'on peut même les connecter entre eux, ces fameux petits Raspberry, pour refaire un espèce de web dans un quartier, ça, à mon avis, ça peut être un jour, peut-être que ça pourra nous servir. Donc, de la même manière que ce qu'on voit, c'est que les gens qui savent toujours cuisiner des poules et élever des poules et cuisiner, et faire pousser des salades, quand il n'y a plus à manger dans les supermarchés, ça se passe bien pour eux. Je pense qu'on est dans le même niveau au niveau du numérique, c'est de refaire du local, donc relocaliser, bosser sur la résilience numérique et se débrouiller pour que si jamais un jour le web est contrôlé ou s'arrête ou je ne sais pas pour quelle raison, c'est pas grave, on peut quand même utiliser la dimension fabuleuse de ces petits outils pour faire intelligence, pour faire coopération, pour partager nos réussites, nos échecs et nos humanités.
Alors, Laurent, il nous a parlé de neutralité du net. Pour rappel, la neutralité du net, c'est le fait que toutes les données qui transitent sur Internet soient traitées de la même manière, c'est-à-dire de manière égalitaire. Donc, on n'a pas le droit d'accélérer ou de brider un flux de données en fonction d'où il vient. Donc, par exemple, d'un gros fournisseur de services comme YouTube et d'où il va. Donc finalement, à travers cette intervention, on se rend compte que l'auto-hébergement, c'est pas seulement un projet technique, donc celui d'apprendre à héberger ses propres services, mais aussi un projet politique, celui de reprendre le contrôle sur un réseau dont la neutralité souffre de plus en plus, et puis surtout de casser la relation de dépendance qui existe entre les hébergés et les hébergeurs, de rendre possibles les alternatives, d'adapter le numérique aux besoins qui existent à l'échelle locale. Donc en d'autres termes, s'auto-héberger, c'est aussi reconnaître qu'en s'adressant à tout le monde, à savoir des services qui sont disponibles et qui sont les mêmes pour tout le monde, ceux du géant du numérique, ils ne s'adressent en vérité à personne parce qu'ils méconnaissent la diversité et puis les besoins des personnes à l'échelle locale. Alors,
il y a aussi une question, le mot qui est important aussi dans l'intervention de Laurent, c'est aussi la question de résilience en fait. S'abstraire de la dépendance aux GAFAM, c'est aussi avoir une capacité de résilience, une capacité d'avoir des services, même si les GAFAM disparaissent, même si les GAFAM arrêtent de proposer leurs services pour diverses raisons, des raisons politiques par exemple. Et il y a aussi un enjeu de reprendre le pouvoir. Et un enjeu de reprendre le pouvoir, c'est aussi ce qu'on peut retrouver dans les chatons. Et donc on peut peut-être se demander par là même, c'est quoi la différence entre s'auto-héberger et être un chaton? Est-ce qu'il y a une différence politique, technique, etc.?
En fait, Chaton, c'est un collectif d'hébergeurs alternatifs qui propose de l'hébergement à des personnes qui ne s'auto-hébergent pas. Ce qui ne veut pas dire que parmi les chatons, certaines des structures qui proposent ces services qui ne sont pas aussi auto-hébergées. Mais pour être chaton, il n'y a pas besoin de s'auto-héberger. On peut avoir des serveurs distants, c'est pas un souci. Et on peut s'auto-héberger sans être chaton. Voilà. Donc c'est un choix qui n'a pas grand-chose à voir avec le collectif en lui-même. C'est juste une façon de faire différente. Voilà. Et donc voilà, parmi les gens, parmi les structures qui font partie du collectif Chaton, il y en a, je pense, un quart à peu près qui du coup sont sur des systèmes d'auto-hébergement.
Donc finalement, on pourrait s'accorder pour dire que l'auto-hébergement, c'est d'abord le fait de maîtriser les services que l'on propose à soi ou aux autres. Donc on sait où sont les données, on peut choisir quel logiciel on propose, on peut le paramétrer, on peut le mettre à jour, etc. Donc on est en somme en total contrôle sur le service lui-même. Mais ce qui va peut-être faire aussi une différence avec les chatons, c'est aussi la maîtrise du matériel sur lequel sont installés les services. En effet, quand on auto-héberge quelque chose, l'ordinateur sur lequel sont installés les services, eh bien, il nous appartient. On n'a pas loué de la puissance du calcul, du stockage, donc c'est-à-dire on n'a pas loué un ordinateur à un fournisseur comme on en trouve en France avec Gandhi ou OVH. On pourrait dire, si on le voulait, on pourrait prendre notre petit ordinateur et puis l'emmener partout avec nous et le brancher où on veut. Donc finalement, ça nous amène à se poser la question, de quoi est-ce qu'on a besoin au niveau matériel pour s'auto-héberger ?
Actuellement, pour de l'hébergement, on passe plutôt par un service tiers qui va nous louer une machine quelque part sur Internet. Et donc, plutôt que de louer une machine sur Internet, on va soit récupérer une vieille machine qu'on a chez soi, soit acheter peut-être des toutes petites machines. Donc, il y a des micro-ordinateurs, des Raspberry Pi ou des petites cartes qui prennent pas de place, qui consomment très très peu et qui suffisent à faire tourner des logiciels et des services pour s'auto-héberger.
Alors, on a cité le Raspberry Pi comme micro-ordinateur, mais il y en a d'autres. Est-ce que quelqu'un veut nous dire un peu à quoi ça ressemble, combien ça coûte, est-ce qu'on peut facilement s'en procurer ?
Ouais, donc en fait, le Raspberry Pi, c'est un tout petit ordinateur qui tient dans une poche, en fait. Alors, les dernières générations, ça coûte 70€, mais si vous en prenez des un peu plus vieux, vous pouvez vous en sortir pour 40-50€ pour pouvoir héberger tous vos services ad vitam aeternam. Le deuxième coût étant votre connexion Internet. Mais cette connexion Internet, souvent, vous l'avez déjà, parce que vous êtes utilisateur d'Internet, souvent. Donc c'est un tout petit ordinateur sur lequel qui est assez puissant pour faire tourner un Linux assez simpliste, un Linux assez sans autre chose que de quoi héberger, et qui peut vous permettre d'héberger tous vos services. Donc voilà.
Puis le fait que ce soit petit, il y a aussi un aspect, on va dire, de la mobilité, quoi. Un micro-ordinateur, bah, ça peut presque s'emmener dans sa poche, se brancher sur n'importe quel réseau. Donc avec ce genre d'outils, on en reparlera, mais on peut imaginer être un espèce d'auto-hébergeur itinérant. On maîtrise finalement la chaîne d'hébergement de A à Z, modulo peut-être la connexion Internet. Donc...
Ouais, un autre enjeu aussi du Raspberry Pi qui est important, c'est sa consommation. En fait, c'est un ordinateur qui consomme très peu, qui est régulièrement dans un état, en tout cas dans sa version 3, dans un état qu'on appelle l'état d'idle. C'est un état où il attend, il ne fait rien, et du coup, il consomme très peu. Et quand on va lui demander des choses, il va se réveiller et se mettre à consommer comme un ordinateur, mais il n'est pas sollicité en permanence et il ne consomme pas en permanence. Ça, c'est un autre enjeu qui peut être intéressant.
Pour vous donner quelques chiffres, une Raspberry Pi en état donc idle, comme disait Baptiste, c'est une histoire de consommation de 1 ou 2 watts. Alors que, et quand il va être en phase de consommation intense, il peut monter à 4, 5, 6 watts. Mais si on prend par exemple un ordinateur, ça va être plutôt aux alentours de 40, 50 watts, voire même facilement, ça peut monter à 80, 90 watts si on a un ordinateur un peu puissant avec un bon écran.
Donc effectivement, on l'a vu, hein, ça a pas mal d'avantages puisque c'est assez peu cher. La consommation énergétique, elle est assez limitée. En tout cas, elle est moindre que celle des ordinateurs classiques. Et puis, on peut se balader avec. Donc, on pourrait se demander, bah, est-ce qu'on peut faire tourner des services dessus à destination des autres ? Eh bien, la réponse est oui. Et la prochaine question, c'est de se demander, mais de quoi est-ce qu'on a besoin au niveau logiciel ? Puisque, ok, une fois qu'on a notre micro-ordinateur, on est paré pour s'auto-héberger. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Que ce soit chez les chatons ou chez les gros fournisseurs de services, mais il y a énormément de manières différentes de créer un service accessible à soi ou aux autres. Aujourd'hui, on va plus particulièrement parler de WhyYouKnowHost, un logiciel qui vise à rendre l'auto-hébergement plus accessible. Et c'est justement ce logiciel sur lequel on a contribué ce week-end. Alors, qu'est-ce que c'est WhyYouKnowHost ?
Moi, je dirais que WhyYouKnowHost, c'est un projet qui vise à faciliter l'auto-hébergement. Alors, l'auto-hébergement, c'est le fait de gérer soi-même son propre serveur. Et de gérer soi-même ses propres services, notamment Internet et numérique. Donc, un exemple de service typique, c'est vous avez Google Drive pour partager des documents et synchroniser des documents avec vos différents appareils ou vos équipes de travail, professionnelles ou associatives ou en famille. Sur un serveur auto-hébergé, vous pouvez installer un équivalent qui s'appelle Nextcloud. Et en fait, WhyYouKnowHost vous permet d'installer ce genre d'alternative à des services centralisés de manière, on l'espère, relativement simple et accessible à des gens qui ont un peu de connaissances techniques, mais des connaissances techniques relativement simples et accessibles à des gens qui sont prêts à bidouiller un petit peu, on va dire. Sachant que l'objectif du projet est justement de réduire la barrière technique pour pouvoir maintenir son serveur. C'est vraiment un des enjeux cœur du projet. WhyYouKnowHost peut aussi être présenté comme un projet militant ou politique, dans le sens où on contribue à essayer de fournir des alternatives aux GAFAM, notamment pour créer un internet décentralisé où les gens sont au contrôle de leurs propres données et où basé sur des services éthiques à plusieurs niveaux.
Donc là, effectivement, comme Alex vient de nous l'expliquer, vraiment, Younos, l'idée, c'est de dire bah, l'auto-hébergement, c'est complexe parce qu'on fait finalement, on fournit un service qui est très compliqué et c'est normal qu'il y ait besoin de beaucoup de connaissances techniques. Mais grâce à Why Younos, on va essayer de simplifier ça au maximum. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans son explication, on revoit bien les deux visées qu'on avait sur l'auto-hébergement initial, à la fois la dimension technique de bah, « il faut des connaissances » et là, avec Why Younos, on va chercher à le simplifier, et à la fois la dimension philosophique et militante de dire bah, « aujourd'hui, on veut reprendre le contrôle sur ces techniques, sur ces savoir-faire, pour être en mesure d'être indépendant des géants du web, par exemple ».
Alors, pour celles et ceux qui pourraient se demander concrètement qu'est-ce que c'est Why Younos, bah en fait, c'est un système d'exploitation, hein, tout simplement, comme Windows, macOS ou Linux en général. En réalité, c'est un dérivé de Linux qu'on va installer sur son ordinateur, par exemple sur son micro-ordinateur. Et puis, une fois qu'il est installé, bien, tout va se faire via une interface graphique. Donc, si je reprends l'exemple qu'a donné Alex, c'est que je veux, par exemple, installer un Nextcloud, eh bien, je peux l'installer en quelques clics et puis le mettre à disposition de mes connaissances. Donc, si on se base juste là-dessus et que le projet Why Younos remplit complètement son objectif, bah ça voudrait dire que n'importe qui avec une petite culture numérique, hein, sans être informaticien ou informaticienne, pourrait auto-héberger ses services et ses données et les gérer intégralement avec une interface graphique et sans s'occuper des aspects techniques. Alors maintenant, la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui on en est là ? Est-ce que c'est si facile que ça de s'auto-héberger ?
Aujourd'hui, les dispositifs qui permettent l'auto-hébergement sont techniquement pas accessible à des personnes qui ont pas de niveau technique dans le numérique. C'est-à-dire qu'on peut avoir une très bonne culture du numérique, mais ça demande quand même quelques opérations techniques qui sont un peu sensibles, genre savoir rentrer des trucs dans un terminal, ce qui fait que ça limite quand même l'accès à une grande partie de la population. Voilà. Donc dans ces cas-là, bah, c'est très bien, c'est pas grave, je peux pas m'auto-héberger, je passe par un chaton qui le fait pour moi. C'est pratique.
Alors, s'auto-héberger, ça veut dire que ça reste assez inaccessible aux personnes qui ne sont pas du tout formées à l'informatique, même si c'est plus facile qu'autrefois. Mais à quel point c'est difficile de s'auto-héberger ?
Non, je ne pense pas que ce soit facile. Déjà, l'ordinateur, le numérique, c'est complexe. Ça a plein d'implications. Après, il y a plein de choses qui facilitent le fait de pouvoir installer des logiciels ou s'en occuper. Mais c'est aussi un apprentissage un peu régulier. C'est comme n'importe quoi en fait. On peut pratiquer. On n'a pas besoin d'être compétent à l'origine. Personne n'est compétent avant de passer du temps sur quelque chose et de se confronter au réel. Après, c'est plus facile quand on est dans un contexte où on peut en échanger avec d'autres personnes, comprendre, avoir quelques facilités là-dessus. Voilà. C'est pas forcément facile, mais ça peut valoir le coup et ça va dépendre aussi de ses motivations en fait. Est-ce que c'est important pour soi ? Est-ce que on a besoin de s'auto-héberger parce que c'est sensible, parce que c'est utile ou parce que ça nous botte ? Voilà, ça va vraiment dépendre des gens.
Donc finalement, comme l'avait dit Angie, tout dépend du besoin auquel on essaie de répondre. Pour le moment, si on veut participer à la redécentralisation d'Internet, participer à la résistance contre, bah, par exemple, le capitalisme de surveillance, on peut choisir d'utiliser des services qui sont proposés par le chaton. Donc, pour rappel, hein, le collectif des hébergeurs interactifs transparents, ouverts, neutres et solidaires, dont on a déjà parlé pas mal de fois dans l'émission. Donc aussi, l'informatique, elle est complexe, peut-être même trop complexe, et donc peut-être que ce serait intrinsèquement impossible d'à la fois regagner le contrôle complet sur ces outils numériques sans se former à la manière dont ils fonctionnent. On peut faire un petit peu l'analogie avec la notion complètement arnaque des digital natives, hein, ces fameuses personnes de notre génération qui sont censées maîtriser l'informatique dès le plus jeune âge, alors que pour la plupart, eh bien, on n'est qu'utilisateur d'outils numériques qu'on ne maîtrise pas, par exemple les smartphones. Et donc, par là même, on entretient cette relation de dépendance avec les vrais propriétaires et les vrais producteurs de ces outils, comme les GAFAM. Donc la question à se poser, c'est est-ce qu'il y aurait un entre-deux à trouver entre l'utilisation de services qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne comprend pas, et puis l'auto-hébergement pur et simple de ces services ?
Pour l'instant, non. Mais de la même manière, moi, je me rappelle quand j'ai installé les premières fois Linux sur mon ordinateur, il fallait que j'ai mon beau-frère qui était bac plus 32 en numérique. Et ça me faisait un truc qui était très très, enfin, au niveau ergonomique, c'était plutôt pitoyable. Bon, maintenant, t'installes des choses, ça marche de manière absolument fabuleuse. Donc, pour moi, de la même manière, là, actuellement, on a des solutions qui sont, on prend le Raspberry ou UnoHost, il y a tout un tas d'installations qu'on peut installer sur ces deux petits serveurs qui marchent plutôt bien, qui sont encore compliqués à installer. Donc oui, il faut encore le grand frère qui sort de la fac de Compiègne qui va du coup nous aider à débugger les choses. Mais je pense que si ces gens-là sont attentifs aux besoins des usagers, on peut les aider, ou en tout cas ils peuvent nous aider. Non, c'est on, parce qu'au final c'est cette interaction-là qui est intéressante, à fabriquer des images disques ou des images systèmes hyper simples, peut-être beaucoup plus simples à prendre en main, et où le premier pas est basique. Et si les gens veulent complexifier, ils pourront le faire. Alors que pour l'instant, c'est souvent des choses compliquées qui, pour le rendre simple, ça reste compliqué. Donc du coup, si on arrive à... C'est vraiment l'intérêt des petits moments de coding party comme on fait là, c'est que de voir le grand dev de UnoHost qui écoute les besoins et qui s'aperçoit qu'il y a vraiment des gens et des acteurs de la transition, parce que c'est aussi des choses qui m'excitent, qui ont vraiment besoin de ces outils-là. Et par contre, si on veut que ça fonctionne, il faut qu'on mette la carte et ça marche. Alors peut-être dans une version dégradée, peut-être dans une version... Mais n'empêche qu'il faut que ça fonctionne. Et si ça fonctionne, ils auront envie de l'utiliser, et après on pourrait les faire rentrer dans une logique pédagogique de commencer à comprendre la complexité.
Alors, juste pour préciser, le nom de Laurent, c'était pas est-ce qu'il y a un entre-deux à trouver, mais est-ce que c'est facile de s'auto-héberger ?
Oui, alors en fait, ce qu'on a vu dans toutes ces interventions, en fait, c'est qu'il y a quand même des avis divergents sur la question de est-ce que c'est simple et est-ce qu'il est possible que ça devienne simple. Et ce qu'on voit notamment parmi les gens qui essaient de s'auto-héberger actuellement, c'est que dans l'idée, le processus, ils trouvent ça simple, mais dès qu'ils sont confrontés à des difficultés techniques, dès que le logiciel arrête de remplir sa fonction, la fonction pour laquelle on l'attend, ils sont un peu perdus, parce que là, il faut rentrer dans des questionnements techniques, des questionnements complexes. Et donc, la question derrière tout ça, c'est est-ce qu'on peut s'auto-héberger et est-ce qu'on est capable d'affronter les difficultés qui sont liées au fait que quand l'auto-hébergement ne marche pas, quand l'auto-hébergement tombe, quand il y a des changements de version à faire, il y a des opérations qui sont techniquement complexes et qui peuvent mener à l'arrêt des services. Est-ce qu'on est capable de poursuivre malgré ça? Est-ce qu'on est capable de vaincre la difficulté technique qui apparaît quand l'outil arrête de fonctionner, en fait?
Effectivement, comme tu l'as dit, Baptiste, même si jamais on arrivait à une version, par exemple, de YUNOS qui est facile à installer, qui s'installe facilement, une des questions qui se pose, c'est quand il y a un problème technique qui arrive, comment est-ce que je fais pour le résoudre? Donc même si les acteurs de la transition arrivaient à s'approprier l'installation, en tout cas, et l'auto-hébergement de ces outils simples, il reste quand même la question de quand ça ne marche pas, vers qui on se tourne. Et puis aussi, en particulier, donc une des conclusions de toute cette discussion, c'est que c'est difficile de s'auto-héberger aujourd'hui, surtout parce que quand on se rapproche du matériel lui-même, des micro-ordinateurs et puis des systèmes d'exploitation, ça devient quand même très complexe, très dépendant de chaque spécificité, de chaque configuration. Alors on pourrait se demander, dans quel cas je vais par exemple choisir un micro-ordinateur, l'acheter, le mettre chez moi? Dans quel cas je vais peut-être louer l'ordinateur de quelqu'un d'autre, que ce soit un fournisseur comme Gandhi ou VH, ou demander à mon voisin? Mathieu nous répond sur cette question.
Ça dépend en fait à qui on loue. Par exemple, moi, propriétaire, ça ne me dérange pas trop de lui filer des sous parce qu'elle n'est pas trop conne. Mais il y a des propriétaires qui sont cons, et puis en plus, ils laissent rentrer les flics. Voilà. Et du coup, soit je me fais chier et j'héberge moi-même mon serveur et puis mais ça veut dire que je fais de l'informatique. Je l'héberge moi-même mais chez des cons et du coup je leur file du fric et ça me fait, en plus je fais de l'informatique. Soit je file le boulot à des copains copines, des militants militantes qui sont admin 6 et qui aiment bien faire ça. Ils sont cool et on boit des coups.
On n'a pas forcément bien compris ce qu'a dit Mathieu, parce que c'est quand même un peu cryptique, surtout pour les gens qui ne sont pas habitués à ce domaine-là. Et donc, globalement, ce qu'il disait, c'est que oui, effectivement, on peut choisir d'avoir sa machine et de la mettre chez soi. Mais dans ce cas-là, ça pose des problèmes que, par exemple, si on est militant et que la police, pour une raison ou une autre, choisit de faire une perquisition ou quelque chose, en fait, finalement, s'il y a un problème au niveau de notre logement physique, on va aussi perdre tous nos services Internet et toutes les données qu'on aura pu avoir. Après, il y a aussi toute la partie de l'éthique. Si jamais on choisit de prendre une machine chez quelqu'un d'autre, bah, il y a toutes les problématiques liées à l'éthique de la personne qui possède cette machine. Ok, je choisis de m'auto-héberger, donc j'ai le contrôle sur mes logiciels, mais finalement la machine, elle appartient à une multinationale qui fait n'importe quoi. Bah, c'est une question qu'il faut se poser. Et du coup, finalement, la conclusion qu'il avait, c'est pourquoi est-ce qu'on n'irait pas chez des amis qui, eux, ont les compétences techniques et qui sont prêts à passer du temps parce qu'ils apprécient ça, parce qu'ils l'apprécient ou parce qu'ils acceptent de se faire chier parce que c'est important pour eux. Et en plus, l'avantage, c'est que du coup, on garde un lien de contact humain, de communauté, et comme il disait, on peut boire des coups avec eux.
Et ben c'est peut-être le moment de faire une petite pause musicale pour nous laisser le temps de digérer tout ça. Et donc aujourd'hui, on va écouter Négantropie de Chad Kroch. C'est sous licence Creative Commons by NC 3. Et on l'a déniché sur le site Free Music Archive. C'est parti.
Et rebonjour à tous, vous êtes toujours sur La Voie est libre et on parlait jusqu'à maintenant d'auto-hébergement. Alors on va reprendre un peu rapidement tout ce qui a été dit. L'auto-hébergement, c'est quoi, pourquoi ? Donc, c'est au sens large, reprendre le contrôle des services informatiques sur lesquels, auxquels qu'on utilise, en les hébergeant soi-même, en ayant accès aux serveurs qui hébergent ces services et en utilisant des serveurs qui sont chez nous, dans notre réseau et qu'on héberge nous-mêmes. Donc une des manières de s'auto-héberger, une manière assez simple en tout cas, c'est d'utiliser un micro-ordinateur qu'on a chez soi, sur lequel on a UnoHost. Donc UnoHost, c'est un système d'exploitation dédié au micro-hébergement qui sert exclusivement à ça et qui a comme objectif de rendre ça très simple et accessible à tous. On va avoir une interface graphique avec des boutons sur lesquels on clique pour installer et désinstaller une application. Et ça nous permet... L'objectif, c'est que tout un chacun puisse s'auto-héberger. En fait, dans les faits, ça c'est l'idée, mais dans les faits, c'est un peu plus complexe que ça, et la solution n'est pas encore tout à fait mature. Et donc, dès que ça fonctionne un peu moins bien, ça demande des connaissances techniques, ça demande d'entrer des informations cryptiques dans des terminaux, dans une salle sombre entre geeks. Et donc, c'est pas forcément très simple. Ce qu'on peut vouloir faire dans ces cas-là, c'est de demander à des collectifs d'héberger des services pour nous. C'est ce qu'a fait dans un premier temps Framasoft, puis les chatons, quand Framasoft commençait à concentrer un peu trop les services et que ça lui plaisait pas forcément. Voilà, on peut vouloir déléguer quand même l'auto-hébergement à des personnes, mais à des personnes, l'idée c'est de déléguer à des personnes qui sont proches et pour lesquelles on a un lien social assez près. Ce qu'on va voir maintenant, c'est que ce que permettent les micro-ordinateurs, c'est un imaginaire de l'auto-hébergement, mais c'est un imaginaire qui est bien plus vaste que ça. Et en fait, ça permet énormément de choses d'avoir un petit ordinateur dans sa poche. C'est ce que va nous expliquer Mathieu maintenant.
Ben, en fait, il y a plein d'endroits où il n'y a pas d'ordinateur. Et puis, de toute façon, il n'y a pas d'hébergeur. Et puis, il n'y a pas trop de réseau en plus. Et du coup, des fois, en fait, tu peux arriver avec des dispositifs qui consomment pas trop d'énergie. Puis en plus, des fois, tu peux les alimenter avec des panneaux solaires ou quoi. Et du coup, tu peux faire découvrir l'outil informatique à des gens qui en sont privés. Et puis, au-delà de la réappropriation, etc., c'est une question de pouvoir, quoi. C'est comment est-ce qu'on met l'information au centre et comment est-ce qu'on fait que l'information elle ressemble aux gens qui en sont à l'origine. Et voilà. Du coup, c'est ça qui a du sens pour moi, quoi. C'est de faire en sorte que
Donc oui, comme nous l'a dit Mathieu, cette logique d'auto-hébergement, elle ne va pas seulement dans l'optique de relocaliser les usages et puis de se réapproprier le numérique, mais il y a vraiment un enjeu de reprendre le pouvoir en possédant, en maîtrisant du début à la fin la chaîne technique nécessaire à l'hébergement, et puis peut-être même aller vers la création de petits internets locaux. Effectivement, pendant longtemps, on a vu le fait qu'il y a un internet globalisé comme une force, et puis même quelque chose de très désirable, hein, le fait de pouvoir communiquer avec tout le monde tout le temps. Et en ce qui me concerne, je nie pas le fait que ça a été super et que c'est encore super, mais c'est peut-être pas le seul modèle ni l'idéal. On peut effectivement penser à la création de petits internets locaux qui permettent quand même de collaborer, de s'échanger des données. Et puis ensuite, on va écouter Laurent sur ces petites utopies qui pourraient naître des micro-ordinateurs.
Actuellement, les acteurs de la transition, il y a des grands silos qui travaillent sur... le rêve d'avoir un monde un peu plus désirable, viable, excitant, etc. Il y a, pour moi, on appelle ça la tragédie du LSD. Et du coup, le L du LSD, c'est les libristes. Donc, dans les libristes, on paye les gens qui font ce que vous faites sur fabriquer des logiciels qui servent aux humains. Wikipédia, OpenStreetMap, donc ça, c'est une logique libriste. Et donc, avec des avantages et des inconvénients. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont capables d'écrire du code à distance. Et si tu te trompes d'une virgule, ça ne marche plus. Donc, de comiter, de merger, de faire des trucs qui sont hallucinants. Par contre, légère tendance autistique, capacité pédagogique limitée. Après, tu as le monde des solidaristes. Donc, le L de l'SD, c'est des gens qui... Emmaüs, RESF, Reconduite à la frontière, tous ces trucs-là. Donc ça, c'est plutôt des moines tristes qui, par contre, ont une histoire politique. C'est-à-dire que quand tu parles d'anarchistes par rapport à libertaires, ils savent que ça s'est séparé en 1752 parce qu'il y a un tel... Donc il y a une histoire politique des idées, alors que par exemple, les libristes, ils pensent que si c'est libre, c'est bien. Tu vois, au niveau politique, on pourrait développer un tout petit peu quand même. Donc là, les solidaristes, eux, ont une conscience, une histoire politique importante. Par contre, leurs modes opératoires n'ont pas bougé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. sociales. Donc c'est plutôt des moines tristes qui font des réunions chiantes, mais par contre qui sont sur des sujets super sympathiques. Et le D de LSD, c'est les durabilistes, qui produisent plein de contenus, qui donc plutôt autour de toi écolo, babos, etc. Qui font des contenus qui sont sympathiques, en général scientifiquement obsolètes depuis à peu près 100 à 150 ans. Par contre, pédagogiquement, ils sont super bons, alors très intolérants au gluten et électrosensibles. Mais du coup, à partir du moment où tu regardes ça, donc, c'est vraiment des silos qui souhaiteraient un monde un peu sympathique, mais qui, un monde, ont des pathogénies de caste. Et du coup, tu t'aperçois que, par exemple, les durabilistes qui font des contenus fabuleux, eux, l'idée de protéger ça comme étant des communs, c'est un impensé. Alors que chez les libristes, quand tu démarres un projet, tu démarres le projet s'il est blindé juridiquement comme étant un commun. Tu dis les libristes qui disent le libre c'est bien, tu vas bosser un peu avec les solidaristes, ils vont t'amener des trucs qui sont assez sympathiques. Donc l'idée c'est de dire comment on arrive à établir des passerelles entre ces. Et donc à un moment, l'handicap d'un des silos est souvent résolu dans le silo d'à côté. Pour moi, le gros enjeu, si on revient sur le côté auto-hébergement et Raspberry, etc., c'est qu'on peut imaginer avoir, de la même manière qu'on installe des distributions. Sudo apt-get installe, je suis pas informaticien, mais et t'installes un paquet informatique qui va t'installer un truc. Moi, je rêve de faire un sudo apt-get installe MOOC permaculture. Et ce qui fait que tu installes un contenu de formation fait par les durabilistes et super bien foutu au niveau pédago que tu peux installer sur ta Raspberry, qui fait que c'est pas vide de contenu, mais tu peux suivre du coup un MOOC permaculture alors chez toi ou avec ton petit réseau local. Et donc là je pense que si on arrive avec un peu de la densité politique des solidaristes, de la pédagogie des durabilistes et de l'intelligence numérique des libristes, je pense que ça peut faire des choses qui dépotent de la mort qui tue. Et après, on peut rajouter là-dessus le monde des artistes, parce qu'il y a quelques artistes qui ne sont plus dans, enfin, qui arrivent à s'émanciper de fabriquer des produits à vendre, mais qui font, qui voient l'art comme une autre manière de convoquer le monde. Donc, c'est juste ces personnes-là, je pense qu'on peut tout à fait les intégrer dans la logique. Il y a certaines formes de collectivité. On commence à voir des gens qui bossent sincèrement sur des manières de faire politique de manière un peu différente. Et puis, certaines formes d'entreprises aussi qui sont peut-être un peu plus respectueuses des individus. Et donc voilà, si tout ça on arrive à mettre en synergie en ayant conscience de nos failles, et voilà, il y a un côté beaucoup d'autodérision, donc à la fois il faut qu'on se prenne au sérieux, mais sans se prendre au sérieux, et avoir conscience que souvent quand on a un blocage, le blocage il est pas chez nous, on ne trouvera pas la solution chez nous, mais dans le silo d'à côté. Et donc peut-être que c'est, moi je trouve dans ces petits objets-là, la capacité de mettre sur un même endroit, voilà, c'est un endroit qui permet de cristalliser de la connaissance, de l'intelligence pédagogique. Et je pense que là, on peut faire des choses qui soient, effectivement, tu mets ça dans ton sac à dos et t'échanges tes grains de formation ou des grains de contenu que tu as récupéré ailleurs, mais certains que tu aurais créés, et qu'on peut synchroniser, qui fait que dès qu'on fait des rencontres comme ici aux Oasis, les mecs ils se synchronisent entre eux en récupérant le... Toi, on fait du merge, mais pas du merge de logiciel, on fait du merge de contenu pédagogique ou d'expérience que les gens font dans les Oasis. Bon, bah là, tu fais des... Là, la transition, elle est en marche, quoi.
Donc effectivement, tout ça, ça a toujours à voir avec la difficulté d'une certaine forme de convergence des luttes, où d'un côté, on va avoir les libristes avec l'ambition d'offrir des outils qui sont respectueux de la vie privée, de pouvoir décentraliser le web, de redonner le contrôle aux gens. Et puis de l'autre côté, on va avoir, par exemple, les acteurs de la transition, mais qui ont des savoirs précieux à partager.
Ce qui est super intéressant quand tu discutes avec des développeurs, eux, ils sont vraiment dans le côté auto-hébergement, je branche et puis je vais faire un service de mail, donc je vais me réapproprier les services que les GAFAM nous ont piqués. Voilà. Si tu rajoutes la couche contenu, et du coup contenu interopérable avec du web sémantique, avec maintenant il y a de l'activity pub qui permettent de convertir les formats entre eux, on donne à une dimension, on n'est plus dans le web des ordinateurs, on est dans le web des contenus. Et ça, du coup, si tu mets de l'intelligence numérique au service du web des contenus, mais tu peux faire des trucs effectivement de malade. Et je pense que par rapport aux quelques petits soucis que rencontrent nos humanités ou notre planète, c'est plutôt nos humanités qui ont des soucis, parce que la planète, elle s'en sortira. Je pense que du coup, d'arriver à mettre, à connecter, à quasiment refaire du web, mais pas du web d'ordinateur, mais faire du web de contenu, à mon avis, ça peut être super intéressant. Et là, on redonne... De la valeur à ces outils qui sont potentiellement fabuleux. Donc ça permet de donner de la densité aux personnes qui ont fait leur c'est bon, j'installe telle instance, ok, mais c'est pour faire quoi ? Et c'est, qu'est-ce que tu mets dessus ? Donc je pense que ces gens-là ont besoin de densité de contenu, et les gens qui font des contenus, ils ont besoin de, qu'on leur montre ce que peut faire le web du futur. Enfin, pour moi, on est dans du web du futur ou du web résilient. Je pense que ces connexions-là, elles sont exponentielles en termes de pouvoir d'agir.
Donc effectivement, là, on voit Laurent qui pointe vraiment quelque chose de très intéressant, c'est que avec ces nouveaux micro-ordinateurs, cette nouvelle manière de le fait de pouvoir s'auto-héberger, on arrive vraiment dans une capacité à créer des nouvelles pratiques qui jusqu'alors n'existent pas et qui ne pourront jamais exister dans notre Internet mondial centralisé. Et donc, il y a déjà énormément d'initiatives qui existent aujourd'hui pour, par exemple, arriver en formation avec son propre petit serveur qui va pouvoir héberger ses services et qui va contenir effectivement les contenus de formation, les choses comme ça. Donc, il y a par exemple une Moodle Box qu'on peut configurer pour stocker l'intégralité de nos cours. Arrivé dans la formation, tout le monde se connecte à ce petit ordinateur et peut partager peut récupérer les contenus de ses formations. Il y a aussi d'autres projets comme la Pirate Box qui propose un fonctionnement un petit peu qui fonctionne à peu près de la même manière, mais avec des logiciels différents. On peut aussi imaginer tout simplement arriver avec son ordinateur à une soirée et avoir son propre système, son propre petit service pour passer des musiques entre tout le monde, et donc avoir un petit service où n'importe qui peut aller venir se connecter sur le micro-ordinateur et commencer à passer la musique qu'il veut. On peut vraiment avoir des possibilités qui sont énormes et surtout qui ne nécessitent pas d'avoir un Internet mondial et une grosse connexion.
Mais qu'est-ce que tu réponds, Tobias, aux gens qui diraient « Oui, non mais maintenant on a Internet, c'est globalisé, ça sert plus à rien, est-ce qu'on a envie de retourner comme dans les années, je sais pas, peut-être même 90, où on se passait des CD sous le manteau, est-ce qu'on a vraiment envie de revenir à l'âge de pierre, blablabla ?»
Justement, déjà, on a vu tout à l'heure avec Mathieu qu'en fait, il y a des gens qui n'ont pas Internet et que même aujourd'hui, si même en France, il y a encore des endroits où on n'est pas capable d'avoir Internet. Et donc là, on peut venir avec son propre réseau local et donc ne pas être dépendant d'une infrastructure technique. Et on ne sait pas non plus pour combien de temps cette structure elle peut exister, elle pourra fonctionner. Et donc finalement, on crée des alternatives qui seront résilientes et dont on maîtrise la complexité et la capacité à transférer les données entre nous.
Puis, ce sur quoi je voulais réagir également, c'est y a aussi dans le partage des informations, des musiques, etc., une dimension sociale. Et le fait d'être à proximité de quelqu'un, d'échanger, de dire « moi j'aime bien telle musique », d'avoir devant soi le fichier, etc., c'est une dimension de proximité qui est aussi très intéressante et qui permet un échange de contenus musicaux, de contenus pédagogiques, etc., assez riche et en face à face. Donc arriver dans une salle et dire « voilà, ça c'est toute la musique que j'aime bien, si vous voulez on en discute, pouvoir donner en live des avis, etc. » Il y a un côté être dans la même pièce. Ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose aussi, c'est tous les services dont on parle là, c'est pas uniquement des imaginaires, c'est des logiciels qui existent, auxquels les gens contribuent. Quand on parle de serveurs musicaux locaux, il y a des alternatives, il y a des choses qui existent dont on a déjà parlé dans cette émission, comme Funk Whale qui permet ça. The Pirate Box, c'est aussi un projet non maintenu, pensé à contribuer, qui permet d'échanger des données de manière locale à des endroits. Moodle Box, pareil, c'est des choses, c'est pas des projets, c'est des choses qui existent vraiment, qui sont concrètement là et qui sont pour le coup parfois assez faciles à installer. Je pense à des images Nextcloud locales, c'est des choses qui sont assez simples à installer, il suffit de flasher une carte et de lancer et ça marche.
Donc au final, il y a tout un tas de raisons de vouloir aussi privilégier ces possibilités de petits internets locaux. Évidemment, on peut se dire que peut-être qu'Internet un jour va s'écrouler ou va être censuré ou ne va plus fonctionner pour une raison ou une autre, même si ça paraît peu probable. Mais tout simplement, il y a aussi le fait de se dire que ça apporte des choses supplémentaires. C'est pas seulement une question écologique ou une question de reprendre le pouvoir. C'est vraiment la possibilité de partager dans un contexte donné, avec des outils adaptés, des contenus, des services, etc. En fait, on n'a pas besoin d'avoir en permanence un Internet globalisé où dès qu'on fait une requête, ça part en Chine ou aux États-Unis. Donc, finalement, la question qu'on a posée à tout le monde pour terminer ces petites interviews, c'est si jamais on arrivait à rendre les outils d'auto-hébergement tellement accessibles, tellement simples techniquement que tout le monde pouvait s'auto-héberger, est-ce que tout le monde devrait s'auto-héberger après tout ce qu'on a dit ?
Et effectivement, c'est une question en fait, qui est très intéressante parce que là, pendant toute l'émission, on vous a dit voilà, l'auto-hébergement, c'est super, c'est très intéressant. Bon, certes, c'est un petit peu compliqué encore, mais ça offre énormément de possibilités. Mais finalement, vous allez voir dans les réponses qu'on va avoir, comme on a des gens qui viennent d'horizons très différents, qu'en fait, la réponse est extrêmement complexe et donc forcément nuancée.
C'est une question compliquée. Moi, je pense que dans l'absolu, je pense que l'auto-hébergement restera une pratique un peu de niche. Mais ce qu'il faut voir, c'est que Wainos permet aussi de créer des hébergeurs locaux qu'on appelle des chatons, des espèces d'amas du numérique. Parce que ça permet à la fois de s'auto-héberger, mais aussi de créer ce genre de structure un peu à échelle un peu plus grande, avec 500 ou 1000 utilisateurs potentiellement, ou voire plus. Et voilà, et c'est un bon outil pour faire ça parce que ça permet de simplifier la gestion, ça permet d'avoir une gestion collective du serveur, par une association, par une équipe associative. Voilà, donc ça permet de créer des chatons. Je sais pas s'il faut définir ce que c'est un chaton. Mais voilà, mais il y a plusieurs chatons actuellement qui tournent déjà, dansent déjà avec Wainhost.
Je crois pas vraiment parce que ça voudrait donc dire qu'on a tous un petit appareil chez soi qui consomme de l'énergie en permanence. Donc c'est un peu le problème aujourd'hui des box par exemple. Enfin, dans les immeubles, tout le monde a sa petite box dans son appartement, alors qu'en fait il suffirait d'avoir deux box pour tout l'immeuble et ça suffit. Voilà, et on le fait pas, hein, donc on pourrait arriver à ça. Mais c'est vraiment pas souhaitable pour le monde, en fait, que du coup tout le monde consomme en permanence un serveur connecté, branché électriquement. Donc ce serait bien plus intéressant de penser de l'auto-hébergement sur des espaces où plusieurs personnes se mettent sur le même hébergement.
Eh bien, je dirais qu'il n'y a pas de... c'est pas une obligation, mais il n'y a pas un besoin que tout le monde s'auto-héberge ou autre. C'est comme sa voiture. Tout le monde n'a pas besoin d'avoir une voiture et tout le monde n'a pas besoin de faire de mécanique quand il a une voiture. Donc je dirais que c'est la même chose avec l'auto-hébergement.
Alors moi je pense oui, ça serait important, mais sachant que s'auto-héberger, ça ne veut pas dire se couper du monde et n'avoir les données que pour soi. C'est aussi décider de qu'est-ce qu'on met accessible publiquement et qu'est-ce qu'on garde pour soi. Et donc idéalement, c'est vrai que si on veut vraiment être sûr que personne n'accède à nos données, le plus simple, c'est vraiment d'avoir l'ordinateur chez soi. Si des fois, on n'a pas envie que les choses soient toujours disponibles, on peut éteindre l'ordinateur, on a vraiment la main pour faire ce que l'on veut avec. Et voilà, donc moi, je pense que oui, ce serait plutôt intéressant que tout le monde s'héberge chez soi, aussi pour savoir que ça a un coût, que voilà, que c'est matériel, il y a des choses qu'on installe, il y a toutes les données qu'on a, ça prend énormément de place. Donc là, on a la maîtrise, on sait aussi quand on abuse, quand on a trop de trucs, il faut faire le ménage, voilà. Et après, ce qui est intéressant, c'est d'être plutôt dans une logique de recréer un réseau très décentralisé où les données qu'on a chez soi, on choisit vraiment à qui on les partage. Et on peut aussi ouvrir, ce que je trouve intéressant, c'est que on n'est pas dans une logique d'avoir que ces données personnelles, mais on peut installer des services et donc aussi proposer des choses à petite échelle. Ça peut être très intéressant dans un contexte, par exemple, une école qui aurait envie de faire des choses avec des enfants. Et ben, les données restent dans l'école, mais les enfants ont quand même accès à des choses qui fonctionnent comme Internet. Ils peuvent faire du réseau, peuvent récupérer des choses. Et on recrée une sorte d'Internet local et ça, je trouve ça très intéressant.
Moi, souvent, par rapport à ça, je pense que c'est vraiment intéressant de partager sincèrement ces technos-là et de voir ce qu'en font les gens. Moi, je pense que les humains sont aussi capables d'être intelligents. Donc, si on leur met ça entre les pattes, il est fort possible qu'il y ait 2-3 personnes qui fassent des grosses conneries avec. OK, on met ça de toute façon dans tout écosystème, il y a des parasites, donc il n'y a pas de problème. Mais si on leur donne le pouvoir d'être intelligents, j'ai bon espoir qu'ils fassent des trucs plutôt sympathiques. Bah, on le voit encore une fois, tu reprends Wikipédia, OpenStreetMap, il y a 2-3 faits maintenant qui montrent que tu peux faire des choses qui sont, quand tu mets les humains, tu leur donnes la possibilité d'eux, ils font des choses qui sont plutôt sympathiques et intelligentes. Les pompiers de la ville de Brest, ils utilisent OpenStreetMap comme carte de référence, parce qu'il n'y a pas plus précis que ça. Donc c'est quand même hallucinant que des citoyens qui... Tout le monde peut modifier, n'empêche qu'il n'y a pas plus précis et plus exact que ça. Et les pompiers, ce n'est pas des rigolos, donc en opérationnel, ils ont besoin d'avoir la carte la plus à jour. C'est OpenStreetMap. Bah, je pense que si du coup, on permet aux gens de chacun d'avoir, de goûter à ça et de leur laisser la possibilité de faire un peu ce qu'ils ont envie de faire, je pense qu'on peut avoir d'extrêmement belles surprises.
En fait, j'en sais rien, quoi. Pour de vrai, ça serait hyper intéressant qu'on arrive à mesurer un petit peu l'impact environnemental du numérique et pas juste le bullshit des GAFAM qui disent « Ah, vous inquiétez pas, en 2030, de toute façon, on arrête de produire le CO2, c'est cool. » Mais plutôt qu'on regarde aussi c'est quoi l'extractivisme et un peu ce que disait Roslav, comment est-ce qu'y compris on utilise des machines peut-être qui consomment un peu plus, hein, mais pour le coup qui ont déjà été produites, quoi, et qu'on les scrape et machin, etc. Parce que, en fait, là, on continue à produire, y compris nos petits Raspberry ou quoi, ben, en fait, ça coûte tellement pas cher d'en acheter pour nous, les riches, qu'on en achète parce qu'on aime bien avoir des nouveaux jouets. Mais n'empêche que, ben, à un moment donné, il faut quand même extraire ces matières premières, quoi. Et ça, c'est l'exploitation et machin et tout. Et du coup, pour de vrai, si on faisait une étude d'impact en incluant l'extractivisme, je pense qu'on ferait vite le calcul que, ben, c'est peut-être pas viable, quoi, à long terme, quoi.
Bon voilà, bah comme vous avez pu l'entendre, on a eu plein d'avis super intéressants de gens de plein d'horizons différents. Et vous, les petits potes, qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors moi, pour répondre, je voulais revenir sur un petit atelier qui avait lieu pendant le week-end, qui était faire faire du numérique éthique. Et les oasis se demandaient comment est-ce qu'ils pouvaient avoir des pratiques plus éthiques dans le numérique. Et ce qui revenait souvent dans ces discussions, c'est que en fait, ce dont il faut partir, c'est du besoin. Les gens demandaient souvent, est-ce que vous avez une alternative à ça ? Est-ce que vous avez une alternative à ça ? Est-ce que vous avez une alternative à Excel, etc., etc. Et la réponse qui était souvent donnée dans ce genre d'atelier, et qui est une réponse assez intéressante, c'est oui, mais de quoi vous avez besoin ? Et est-ce que le numérique est la meilleure solution à votre problème ? Et des fois, il se trouve que bah non, la réponse, ce ne sera pas de vous auto-héberger, ce sera de sortir un papier, un stylo et de faire vos comptes, si vous êtes deux à avoir besoin de faire des comptes rapidement, etc. Et donc, il y a toujours une question où il faut se demander, est-ce que quel est le besoin qu'on veut avoir quand on utilise Facebook, Mastodon, etc. Et est-ce que héberger sa propre instance, ça a un intérêt ? Est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut faire ? Voilà, ça c'était ce que j'en pensais. Peut-être Tobias, tu as une idée là-dessus également ?
Moi, là, je veux plus parler sur une expérience personnelle, c'est que justement, donc j'utilise énormément Yunos, donc on n'a pas encore pris le temps, mais du coup, Yunos, ça s'écrit Yunohost. Et du coup, c'est un jeu de mots qui est pour la phrase anglaise « Why you no host ?» qui veut dire « Pourquoi est-ce que tu ne t'auto-héberges pas ?» Donc en fait, l'énorme intérêt que je vois à ça, c'est qu'aujourd'hui, avec une relative simplicité, je suis capable d'héberger une partie de mes propres services, mais surtout de les fournir à un cercle de connaissances et d'amis qui, eux, n'ont pas les compétences de le faire, ni les compétences, ni l'envie. Et donc, aujourd'hui, je pense que tout le monde ne devrait pas s'auto-héberger. Par contre, à une échelle relativement locale et donc avec des contacts directs, de telle sorte que, finalement, la personne qui utilise le service sait toujours qui est-ce qui s'en occupe. C'est une fonctionnalité qui est très intéressante parce que ça me permet effectivement, comme je le disais Baptiste tout à l'heure, de vraiment réfléchir à où est ton besoin. Et aujourd'hui, quand quelqu'un me dit bah voilà, je voudrais un nouveau service comme ce truc-là, je vais effectivement prendre le temps d'aller le voir et de lui dire ok, t'as l'impression que c'est ça qu'il te faut, mais si on discute précisément et qu'on définit un cahier des charges, qu'est-ce que tu veux exactement ? Donc je sais pas où est-ce que tu te places, Quentin, de ton côté ?
Moi, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Au final, c'est vrai que la plupart des critiques qu'on a entendues face à l'auto-hébergement, bon, bah, y a la question écologique, bien sûr, mais il y a aussi la question de pourquoi est-ce que je fais ça, quel est mon besoin. Et effectivement, on s'est posé la question de pourquoi est-ce que tu t'auto-héberges pas, mais on peut se poser la question de pourquoi est-ce que tu t'auto-hébergerais. Donc toutes les réponses qu'on a déroulées tout au long de cette émission, bah, ça a aussi rapport avec bah, le fait de reprendre le contrôle sur les outils numériques et puis sur nos données, de sortir du capitalisme de surveillance et de l'ultralibéralisme, de participer à la transition, en tout cas de donner les outils aux acteurs de la transition, etc., etc. Mais en fait, pour ça, on n'a pas besoin de tous s'auto-héberger. Donc je pense qu'il faut trouver la juste mesure entre le fait de réussir à avoir toutes ces choses positives que j'ai dites avant, sans avoir à tous acheter un micro-ordinateur et de niquer la planète pour ça. Donc finalement, pour moi, ce qui compte, et je pense qu'on l'avait déjà dit dans d'autres émissions, mais c'est peut-être juste de connaître quelqu'un, voir qui connaît quelqu'un qui est capable de faire ça, et tant qu'on se donne la possibilité technique et sociale d'avoir ces petits internets locaux et puis de pouvoir reprendre le contrôle sur nos données, on n'a absolument pas besoin de tous s'auto-héberger.
Et du coup, pour conclure un peu, en tout cas, on va peut-être vous redonner quelques liens. Donc, Yunohost, donc qui peut être accessible sur le site yunohost.org, donc yunohost.org. Donc après, il y a le mouvement des colibris. On vous mettra l'URL dans le lien, enfin dans la description de l'émission de radio sur radio.picasoft.net. Et dire un grand merci justement au mouvement des Colibris parce que ils nous ont ils ont pris en charge totalement notre week-end de contribution pour que on soit en mesure de créer des liens avec cette communauté, avec des gens qui sont plus expérimentés que nous, d'autres gens qui sont moins expérimentés. Et donc on a réussi non seulement déjà à avancer pendant ce week-end pour faciliter l'utilisation de ce genre d'outils, mais surtout, on a réussi à créer des liens qui nous donnent énormément envie de continuer, parce que d'un côté, on a vu des gens les gens qui sont à l'origine du projet et qui sont des gens formidables avec une compétence technique incroyable, et à la fois des gens qui sont venus nous voir en disant nous on a besoin de cet outil et on est vraiment heureux que vous soyez là pour faire ce genre de choses et votre travail sert à quelque chose. Donc voilà, merci beaucoup à tous ces gens.
Ben oui, carrément. Et puis, comme l'a dit Tobias, au même titre que nous, on a été super contents de pouvoir créer du lien, rencontrer des gens qu'on n'avait jamais rencontrés, découvrir des super projets. Finalement, notre contribution technique à Why You Know Host ce week-end, elle n'est pas absolument extraordinaire, mais on en a tiré beaucoup, en tout cas d'énergie, pour pouvoir continuer à faire ce qu'on fait. Et donc, si vous êtes un peu aussi dans ce cas, vous demandez qu'est-ce que je peux faire pour me rapprocher d'une pratique d'auto-hébergement, en tout cas faire héberger mes services et mes données par des gens... qu'on ait pratique éthique, n'hésitez pas d'une part à aller parler aux chatons qui sont près de chez vous. Hein, le site chatons.org référencie toutes les structures qui sont prêtes à vous aider. Vous pouvez aussi vous rapprocher de Ritimo, qui est une structure qui fait pas mal d'accompagnement pour la transition vers des outils numériques éthiques pour les associations, les entreprises, etc. Et puis surtout, n'hésitez pas à aller à des événements comme celui où on s'est trouvé, puisque finalement, c'est en faisant ensemble qu'on arrive vraiment à avancer et pas juste en restant derrière son PC, quoi. Je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter un petit mot.
Oui, je voulais juste répondre à ça. Juste faire une petite blague. À la fin de notre contrib atelier, justement, il y en a un qui a dit on faisait tous un point sur notre avancement de qu'est-ce qu'on avait à faire. Et donc, Mathieu, que vous avez déjà pu entendre, nous a dit moi, j'ai réussi à rien faire, mais c'est toujours mieux que de réussir à faire des choses tout seul parce que j'étais avec vous et c'était sympa. Voilà. Donc, faites des choses avec les autres. C'est toujours plus sympa.
Eh ben on l'embrasse et puis sur ces bonnes paroles, on va vous laisser. Merci d'avoir écouté La Voix est libre, bonne journée et à la semaine prochaine. Salut!